Cette semaine à la vie en BD, littérature jeunesse entre poésie et changement climatique. Bon mardi à tous et toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous et comme à l'habitude, je pense que je le répète à chaque émission, mais je le dis encore, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Évidemment, la bande dessinée jeunesse, vous le savez, c'est un sujet que j'aime bien aborder, que j'aime bien traiter d'émission en émission. Je pense que même un peu plus tôt cette année, en janvier, on avait fait un tour de la BD jeunesse québécoise en une vingtaine d'albums et séries. Il se fait de la très, très belle bande dessinée jeunesse au Québec. Et cette semaine, ben, on va aller dans ce terreau-là. On va aller voir deux BD qui sont pensées principalement pour les 8-12 ans. Alors, deux BD quand même très différents dans la facture, mais qui ont un objectif commun, qui est celui de soulever des questions, de mettre de l'avant des préoccupations et d'offrir une opportunité de dialogue et d'échange entre l'enfant et le parent autour des propos de l'album. Alors, en deuxième moitié d'émission, eh bien, on ira voir un récit à saveur poétique. Ça s'appelle Marco Bleu. C'était d'abord, enfin, un roman jeunesse, un récit jeunesse illustré, et c'est devenu une pièce de théâtre et maintenant, ça devient une BD. C'est un texte de Larry Tremblay, donc, qui est passé dans diverses mains et à travers diverses perspectives qui se retrouve maintenant dans celle de Julien Castagnier. Et l'objectif de cette bande dessinée, de mettre de l'avant, dans le fond, un dialogue intérieur d'un enfant de 7 ans qui cherche un peu sa place, qui cherche un peu son rôle, qui essaie de comprendre et tout ça autour de l'arrivée d'une petite sœur. Alors, on va explorer un peu les outils et les façons par lesquelles l'illustrateur, le dessinateur, le metteur en scène de cette BD a choisi de s'approprier pour illustrer justement ce dialogue intérieur. Alors ça, ce sera en deuxième moitié d'émission. Et pour ce qui est de la première moitié, on ira avec une autrice de Québec, Caroline Soucy, qui a offert un peu plus tôt cette année le tome 1 de la série Paul Polaire, c'est sorti autour de mai, et qui cet automne offrira le tome 2 de cette série. Une bande dessinée dont le premier tome est plus dans l'esprit de gag humoristique, et dans le deuxième, on s'en va vers un récit longue forme, et on est dans une bande dessinée qui s'intéresse au changement climatique et qui utilise, dans le fond, les conséquences, entre autres dans l'article, des changements climatiques, de la surconsommation et le reste, comme pierre d'assise pour une série humoristique mettant en scène des ours polaires. Alors, c'est quand même des ingrédients pas nécessairement évidents à bien maîtriser et à bien cadrer. Alors, comment tout ça s'est passé? On va en parler dans quelques instants avec Caroline Soucy. Alors, c'est le menu pour cette semaine, ici à La Vie en BD. On se lance maintenant vers un album qui est arrivé il y a quelque temps du côté des étaux des libraires. Donc, ça s'appelle Paul Polaire. Donc, premier tome, Coup de chaleur, c'est du côté de Glénat. Il y a un deuxième tome également qui s'en vient prochainement. Donc, nouvelle série à saveur humoristique, nouvelle série d'une autrice de Québec, par ailleurs, Caroline Soucy, qui est avec nous. Bonjour.
Allô.
Alors, d'entrée de jeu, en fait, c'est un peu un... J'aurais envie de dire un premier album solo pour toi, Caroline, après un beau parcours dans l'illustration, après un beau parcours dans le domaine du jeu vidéo, après plusieurs présences scéniques également à Québec. Ouais. Tu as été très présente en improvisation BD, en spectacle dessiné. Tu as collaboré à la revue Planche. Tu as également travaillé sur Territoire Édonté avec Richard Valrand il y a 3 ans, qui est un peu le premier album plus formel. Mm-hmm. Là, tu arrives avec un album plus longue forme, avec une série. Qu'est-ce qui fait justement qu'après plusieurs années, là, tu plonges en solo avec Paul Polaire?
Paul Polaire est né il y a 15 ans, au moins. Le premier sketch là, de Paul Polaire, fait que c'est un projet que je traîne vraiment depuis longtemps là, dans ma tête, dans mon subconscient. Au départ, je voulais faire un dessin animé, mais c'est long, ça prend du monde. Et puis, je ne suis pas non plus animatrice là, de dessin animé. Ça a cogité dans ma tête, c'est resté longtemps. Puis, ce désir-là de parler d'environnement que j'avais depuis longtemps, ben, se précisait. Puis, avec des rencontres, j'ai des amis qui font de la BD, j'ai rencontré plein de gens formidables dans le milieu, qui m'ont fait rencontrer par hasard une éditrice qui cherchait des projets. Puis, ben, moi, j'en ai un. Il est très, très sketchy, mais c'est une suite de hasards, hein, puis je ne sais pas comment l'expliquer, là, de choses qui se mettent en place sans que tu le saches, puis à un moment donné, ah, là, je ne sais pas, tout pointe, tout concorde pour que ça naisse, là, le projet.
Oui, puis tu disais, dans le fond, ça fait déjà une quinzaine d'années, donc tu avais eu l'idée, puis pour qu'on contextualise, dans le fond, Paul Polaire, un ours polaire, dans le fond, qui vit dans le pôle Nord avec deux jumeaux, avec un frère qui est l'oncle des jumeaux, avec d'autres animaux qui gravitent autour de ça. Donc, est-ce que c'était déjà l'idée générale, dans le fond, de ça que tu avais eu il y a un certain temps, ou c'est une idée au départ, à peu près ça, au fil des années, justement, t'es venu un peu la bonifier pour en arriver, dans le fond, à ce que tu nous proposes aujourd'hui?
Oui, exact. Ça, c'était pas du tout, c'était pas tout à fait le même concept. Ça s'est bonifié avec le temps. Vraiment, là, ça a évolué beaucoup. Des personnages ont changé. L'idée des gags est venue assez rapidement. Puis là, en sketchant des gags, ah, on pourrait peut-être les lier. En tout cas, ça a vraiment, vraiment évoluer très lentement. Puis, je dirais dans mon subconscient, c'est bizarre à dire, là, mais je me levais un matin, puis ah, là, il y a deux fils qui se nouaient. Genre, ça peut être intéressant. Puis là, ça pouvait cogiter encore plus longtemps, puis jusqu'à ce que ça prenne une forme plus concrète, là. Mais oui, ça a beaucoup changé. Mais
Et
c'est. Ouais.
je mentionne aussi, parce que tu l'as dit, dans le fond, on a vraiment un premier tome, donc qui est basé sur des gags, des courtes histoires. On va revenir un peu dans le détail de tout ça au fil de la rencontre, mais dans le deuxième tome, je pense que c'est important de le préciser, subitement, on passe aussi vers le récit longue forme, donc on passe de nouvelles, entre guillemets, vers un récit, en gardant l'humour d'un tome à l'autre, mais encore là, la série évolue et progresse. Et change dans le fond de structure aussi entre le premier et le deuxième tome.
Oui. Puis le fait de lier les gags par une histoire globale, c'est venu assez tard aussi. Donc, en pensant surtout à la relation entre les personnages, entre les enfants, leur père, pourquoi leur mère a disparu, tu sais, tout ça, ça s'est lié. Puis je me suis dit, bon, mais la formule, comme tu sais, un peu comme les nombrés, genre, ça pourrait marcher, quelque chose comme ça. Puis là, tu sais, c'est vraiment des gags, une histoire dans un album, puis une autre histoire, ben, la même histoire qui relie tous les albums, là. Ça nouait, ça liait mon concept. Parce qu'au départ, dans le fond, moi, j'avais deux objectifs. C'est ça, c'est de parler d'environnement. Parler de changement climatique dans le premier album et parler des conséquences de nos gestes sur l'environnement, par le fait même sur d'autres espèces animales. Puis le deuxième volet, l'objectif que j'ai, c'est de faire connaître aux enfants et aux adultes, différentes espèces animales qui vivent dans des écosystèmes spécifiques. Donc ça, c'était vraiment mon but. Mais l'histoire, là, qui s'est greffée à tout ça, c'est comme une surprise, c'est comme la cerise sur le sundae, je te dirais,
C'est en bâtissant l'univers, en bâtissant les
là.
personnages,
Ouais,
tranquillement, il y a des pièces qui se sont manifestées, puis qui ouvraient des portes. Et
ouais. Ouais.
j'imagine même, en fait, quand tu parles de montrer des écosystèmes, des choses comme ça, ben, veux pas, à un moment donné, on a la banquise qui est un lieu fermé, donc la possibilité aussi, éventuellement, et sans trop en dévoiler, de faire voyager des personnages.
C'est ça.
Là, ça t'ouvre des nouvelles portes, ça t'ouvre des nouveaux phénomènes, ça t'ouvre des nouveaux écosystèmes, ça t'ouvre des nouveaux gags aussi.
Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, de la façon dont moi je travaille, je choisis un écosystème, puis une problématique environnementale, puis ensuite des animaux qui vivent ces problématiques-là, qui vivent dans l'écosystème. C'est vraiment ça, là. Puis à partir de ça, là, je bâtis les gags. Puis je bâtis l'histoire. T'sais, fait que c'est vraiment le point de départ, c'est vraiment toujours les animaux, l'écosystème, puis la problématique environnementale liée à cet environnement-là.
Et pour le premier tome, j'ai l'impression qu'on est beaucoup aussi, justement, parce que veut pas, faut s'attacher à tes ours, faut s'attacher à ta famille. Donc, on les a présentés un petit peu. Et ça nous permet de bien comprendre leur dynamique, de bien comprendre qui ils sont, justement, puis de placer, dans le fond, ton univers. Donc, on commence, Paul Polaire, on est sur la banquise. Et là, ben, dans le fond, on sent aussi, justement, chaque gag un peu son cadre animalier, sa problématique en fond, dans le fond. Puis après ça, dans le fond, la mécanique du gag qui va s'influencer de ces différents outils-là.
Ouais, vraiment. Et puis, comment je pourrais dire ça? Il fallait les rendre attachants. Puis, dans un seul gag, c'est un peu difficile de leur donner une histoire, tu sais, puis une personnalité. Puis, je pense que la grande histoire qui relie tout ça, la quête qui relie tout ça, ben, ça nous les rend attachants. On peut se reconnaître dans ces personnages-là ou pas. Pas sûr que quelqu'un veut se reconnaître dans Paul Polaire, mais il est un peu maladroit. Il est pas très bon chasseur. Mais ouais, je pense que la grande histoire me permet vraiment là, de parler de ces personnages-là.
Oui, puis la petite histoire, dans le fond, te permet d'exploiter leurs défauts. Tu parlais qu'il n'est pas très bon chasseur, qu'il est
Non,
un peu paresseux, qu'il aime dormir et le reste. Les enfants qui gravitent autour, qui sont très énergiques, qui le poussent beaucoup hors de sa zone de confort, ben, ça devient, dans le fond, pour le tome 1, un bon moteur, dans le fond, pour différents gags, pour différentes mises en situation, entre autres autour de la chasse, là, qui revient sporadiquement.
ouais. Puis comment je peux dire, je te disais tantôt, j'avais deux grands objectifs, mais là, j'en ai comme un troisième qui est de parler de la famille. Puis ça, je l'ai fait comme inconsciemment, tu sais. Comme je disais, tout se greffe. J'ai pas un processus linéaire, clair de création. C'est vraiment comme un peu de l'impro. Donc, je parle beaucoup de parentalité, puis de comment ça peut être frustrant des fois d'avoir des enfants, ou ça peut être frustrant d'avoir un papa qui est pas bon, ou tu sais, je veux dire, je me reconnais beaucoup là-dedans comme parent, ou comme tu sais, les enfants qui sont tannants, qui s'emmerdent vite parce qu'ils ont rien à faire. Moi, j'étais comme ça là, toute petite là, il fallait que je bouge, il fallait que j'aie des activités, mes enfants aussi, tu sais. Fait que dans le fond, ça parle beaucoup de la famille.
Oui, puis ça permet de faire des allers-retours. Tu sais, tu dis justement, tu sais, les enfants s'ennuient, puis à un moment donné, ben, on dit, OK, ils s'ennuient, mais leur environnement change, il y a moins de neige, ils peuvent moins jouer l'hiver, il fait plus chaud. Donc là, subitement, l'enjeu familial, l'enjeu personnel est associé avec l'enjeu environnemental.
Exact,
À cause de ça, ben, là, ils se mettent en mouvement, il faut que le père anime, trouve des activités, puis oups, là, ils se retrouvent dans une mise en danger. Donc c'est vraiment, effectivement, un jeu de ping-pong entre les
ouais.
différents éléments qui interagissent puis qui mettent ton histoire en mouvement comme ça, de façon quand même assez organique au final.
Ouais, je pense que c'est comme un casse-tête. Tous les morceaux se sont bien imbriqués les uns dans les autres. Puis je suis vraiment contente que ça se soit pas limité juste à des gags, finalement. Je suis vraiment contente de cette découverte-là que j'ai faite. C'est pas un novateur comme façon de raconter des histoires, mais pour moi, je sais pas, c'est mon premier album aussi. J'ai jamais fait de grandes BD comme ça. Je me suis vraiment surprise et amusée à ajouter cet élément-là, cette grande histoire-là. Donc, j'ai dépassé mon propos environnemental aussi.
Oui, puis l'environnement te permet aussi d'aller chercher des artifices ou des éléments. Si je pense, par exemple, je parlais de l'oncle, qui est un peu le quatrième mousquetaire, si on peut dire, de cette histoire-là, qui, lui, bon, est le patenteux, qui, d'un point de vue environnemental, encore là, dans le fond, il y a sa montagne de détritus, il ramasse des connexions, mais oups, pour la scénariste, subitement, on a accès à des technologies, on
Exact.
a accès à des
Oui.
objets qu'on peut utiliser pour les gags.
Oui.
Donc, encore là, faut que ça soit justifié. Une fois que tu as trouvé la justification, mais là, tu as des ressources
Oui.
supplémentaires dans ton arsenal.
Oui, c'est exactement ça. Oncle Bob, lui, il est vraiment mon lien entre le monde des animaux et le monde des humains. J'avais vraiment besoin de ça. Je pouvais pas me limiter à seulement utiliser des trucs naturels. Je ne sais pas comment l'expliquer, là. Oncle Bob, il me permet de faire le lien entre les ours et nous, entre ce que nous, tu sais, d'expliquer aussi les conséquences de ce qu'on fait avec nos objets. Il est très utile, Oncle Bob. Puis effectivement, je l'ai pensé comme ça.
Oui, puis ça ouvre en fait, parce qu'au bout du compte, quand on regarde vers le deuxième tome, on disait qu'il y a un déplacement. Bien, déjà, dès le premier tome, on place justement l'idée que ce qu'on jette, ben, au bout du compte, ça ne disparaît pas. Évidemment, c'est quelque chose, un temps soit peu, si on regarde les documentaires, on a cette conscience-là, mais qu'on oublie vite, parce que c'est loin.
Ben oui.
Et tranquillement, dans le deuxième tour, ben, on rattrape aussi ces déchets-là. Tu vas nous amener vers, par exemple, le continent de déchets dont on a parlé, donc des masses de déchets de détritus qui se déplacent. Et là, ben, on parlait de changement de décor, donc ça te permet de passer de la banquise vers l'océan, de passer de l'océan à des lieux qui sont, somme toute, surprenants aussi.
Oui, c'est ça. Donc, mon deuxième écosystème étant l'océan, je voulais parler de plastique. Donc, c'était déjà clair dans ma tête, mais c'était un peu limitatif d'être toujours sur l'océan. Puis donc, il a fallu que j'invente un petit peu un lieu où l'action pourrait changer, que tu sais, c'est pour rendre l'histoire plus intéressante. Donc, c'est inventé, basé sur des choses qui existent vraiment aussi, mais c'est pas tout à fait la réalité. Puis c'est un peu le défi de mon projet. C'est basé souvent sur des choses vraies, des faits vrais, scientifiquement vrais, comme le vrai comportement des animaux, mais en même temps, je mens beaucoup, puis c'est des folies, là, c'est pas, tu sais, les ours marchent sur deux pattes, ils marchent pas sur deux pattes dans la vraie vie, mais il y a quand même un fond, il y a toujours un fond de vérité, là, dans le comportement animal, dans les problèmes environnementaux. Mais il faut que je triche un peu pour rendre ça un petit peu intéressant, surtout dans le deuxième, là.
C'est d'aller chercher l'aspect BD, d'aller chercher l'aspect personnage, d'aller chercher l'aspect un peu lieu, de nous faire voyager aussi à travers ça, mais il faut quand même que ça marche pour ton histoire. Donc, effectivement, pour tes animaux, en fait, à Taillard, t'en as pas mal. T'es dans narval, t'as des morses, t'as des phoques, t'as des buffles. Bref, t'as une belle variété et j'imagine, effectivement, on va chercher, on voit un peu, bon, c'est qui, c'est quoi ses particularités à cet animal-là. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui peut devenir un moteur de gag? Comment exact. Je peux l'amplifier pour que ça soit drôle?
Ouais.
Puis comment je peux, après ça, faire entrechoquer les besoins de mes ours avec les besoins de mes phoques, par exemple? Puis créer, dans le fond, des chutes, des situations, des éléments qui vont faire réagir, qui vont faire rire.
Oui, exactement. C'est exactement comme ça que je travaille. Je choisis l'animal avant d'avoir trouvé... le gag, puis je me dis, OK, l'animal ou l'objet, ça peut être aussi un objet. Puis après ça, j'essaie de trouver une histoire rigolote sur un comportement ou sur une caractéristique de cet animal-là. Donc, c'est vraiment comme ça que je bâtis mes histoires.
Et toujours avec, j'ai l'impression, un défi supplémentaire dans le contexte du sujet que tu t'es donné. Dans le fond, on l'a dit, pôle polaire, veut pas, c'est les changements climatiques, c'est l'environnement, c'est la surconsommation qui deviennent le moteur, au bout du compte, de gag. Mm. Et avec un sujet comme ça, j'imagine que le défi devient de pas être moralisateur, de pas tomber dans la morale à deux scènes, de ramener ça vers le gag et de pas forcer une prise de conscience à coup de poing, là, d'avoir quelque chose qui est plus fluide au bout du compte, donc de trouver le bon ton.
Oui, c'est ça. Dans le premier album, c'était ça s'est fait plus naturellement. C'était plus facile de garder le bon ton. C'est sûr que le danger il est toujours là d'être moralisateur, mais dans le deuxième, quand j'ai écrit le deuxième, puis j'ai eu l'aide de mon éditeur, j'ai dérapé un peu vers le moralisateur. La morale, en fait. Et puis, il m'a dit, non, 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 c'est la perspective des ours. Il faut toujours que tu te mettes dans la peau de tes ours. Eux autres, ils subissent. Ils commentent pas. Ils peuvent pas commenter sur... ils savent pas d'où ça vient. Ils font juste vivre les effets de ça. Il faut que tu restes là. On veut pas entendre Caroline, là, l'engager. On veut pas entendre un discours moralisateur ou donc, il a fallu que je retravaille plusieurs pages pour essayer de revenir au ton du premier qui s'était fait plus naturellement que dans le deuxième. Donc, j'ai toujours, c'est ça, je joue comme sur une corde raide, là. Donc, puis aussi, il faut que je me fie à l'intelligence des enfants, des lecteurs, tu sais, qui vont comprendre. Le message est vraiment toujours par en dessous. Tu sais, il n'est pas clair. Je me dis, ben ça va peut-être allumer une petite étincelle ou une curiosité qui va faire que les enfants vont aller se documenter ou chercher. Mais il ne faut jamais que je tombe dans la morale là, puis dans le, ouais,
Oui, puis des fois même, tu te donnes quand même des situations, même dans le premier, je veux dire, des situations qui auraient pu déraper vers la morale comme telle. Je pense entre autres, en fait, un de tes gags, que l'amorce, c'est genre tes ours trouvent une baleine échouée et elle est décédée parce qu'elle s'est prise dans des filets. Donc, on a l'accroche, dans le fond. Mais à partir de ça, ben, comment justement amener ailleurs que juste dans se désoler de ça? Et là, oups, on intègre cet accident-là quand même dans une logique un peu naturelle. Ça permet d'éviter l'écueil et puis de tourner, de développer autrement la situation. Mais c'est, j'imagine, est-ce que tu es venu rapidement avec l'idée ou tu t'es dit, OK, je vais mettre la baleine, puis après ça, on structure pour essayer de voir quelle situation humoristique on peut créer avec quelque chose qui est au départ assez dramatique quand même.
Ouais. Ben, en fait, c'est drôle parce que ce gag-là, c'est vraiment, il a changé en cours de route. Au départ, ben, encore là, tu sais, je commence toujours par trouver une thématique. Donc là, je me suis dit, il y a des baleines qui s'échouent dans le Grand Nord. J'ai déjà vu des reportages où tu vois plusieurs ours polaires qui sont sur un cadavre de baleine et qui mangent la baleine. C'est le festin, là, c'est le buffet pour les ours. Ça les aide dans leur survie. Je voulais traiter ça. Mais au départ, les baleines là, qui s'échouent comme ça, leur peau est tellement épaisse, enrobée de graisse, qu'ils gonflent sous les gaz de putréfaction. OK? Puis ça, c'est vraiment une histoire que quelqu'un m'a contée, là. Si tu rentres un couteau dans une baleine il y a les gaz qui sortent, là, ça sent mauvais. En tout cas, tu sais. Puis là, moi, je dis, ah, c'est drôle, ça. Fait que moi, mon premier gag, c'était qu'accidentellement, oncle Bob perce la baleine, puis qu'elle explose, puis que là, des morceaux de viande se ramassent partout sur la plage, puis que des oiseaux viennent leur voler, là. Mais c'était vraiment. Pierre, mon éditeur, trouvait ça un petit peu gore. Moi, je trouvais ça drôle. C'était pas rouge sang, puis c'était comme un peu rose bonbon, puis c'était comme... Mais... Bon, en tout cas, il a fallu le retravailler, ce gag-là. Fait qu'on s'est plus orienté vers le fait que quand une baleine s'échoue, c'est un drame pour la baleine, mais c'est une occasion pour les ours d'être ensemble. Parce que sinon, c'est des animaux très solitaires. Ils sont jamais en groupe, les ours. Donc, on a plutôt exploité cette veine-là. Mais c'est vraiment. Je l'ai encore là, sur mon ordi, la version censurée.
mais ça montre en fait justement, tu sais, quand tu dis on va chercher un phénomène, on va chercher des éléments, on s'inspire d'un vrai comportement, puis après ça. On en fait un gag, mais c'est un bon exemple. Au bout du compte, parce qu'après ça, moi, comme parent ou un de mes enfants pourrait prendre une encyclopédie quelconque, aller voir, OK, c'est quoi le comportement des ours polaires, puis les trucs qui sont dans ta BD, dans le fond, ils peuvent faire l'aller-retour ou le parent peut faire l'aller-retour avec l'enfant.
Oui. Ce qui est dur, c'est de démêler le vrai du faux, puis ça, je me rends compte que c'est peut-être le point faible de mon projet, dans le sens que je peux peut-être mélanger les gens un peu entre ce qui est vrai, mais en même temps, les gens.
Ça reste des ours anthropomorphes aussi. On ne s'attendra pas à un niveau de réalisme absolu non plus.
Mais pour moi, c'est important d'avoir toujours un fond de vérité à quelque part. Là. Mais
tu as un peu aussi trois niveaux de personnages là-dedans, dans le fond, où tu as des humains, dans le fond, il y a des scientifiques qui arrivent à un moment donné. T'as tes ours qui sont entre l'animal et l'humain. Dans le fond, on est vraiment des personnages anthropomorphes auxquels on peut s'identifier comme lecteur-lectrice. Et dans un troisième temps, t'as d'autres animaux qui, eux, se rapprochent plus de l'animal, en fait, qui ont des particularités, des éléments. T'sais, autant les phoques qui sont un peu plus anthropomorphes, autant les morses, c'est des morses, là, au bout du compte, il n'y a pas cet élément-là. Donc, ça permet aussi de distinguer peut-être un peu les types d'animaux qu'ils vont rencontrer.
C'est vrai. Bien vu. Oui, on peut se fier un peu à ça. C'est ça, c'est les espèces animales qui ressemblent plus à leur vrai, sauf les ours.
Et avec aussi au niveau, on parlait de Bécard, je me disais, se lancer dans un album qui se passe sur la glace, qui se passe sur la neige, qui se passe dans des étendues quand même un peu vierges. Au bout du compte, donc comment on réussit à bien se donner une variété, évidemment. Déjà dans les paysages que tu proposes, c'est à un moment donné, il y a des aurores boréales, à un moment donné, bon, on a des montagnes, on n'est pas juste sur la glace, mais c'est quand même pas évident de rendre la neige, la glace en dessin, de bien les distinguer aussi, que ta glace a l'air de la glace, ta neige a l'air de la neige. Donc, est-ce que c'est devenu un casse-tête ou au contraire, est-ce que ça a été assez assez naturel de bien réussir à bien représenter ces environnements-là?
C'était un défi, pas trop gros, mais c'était quand même un défi. C'était un souci pour moi dans le sens qu'il fallait pas que l'album soit toujours dans les mêmes couleurs. C'est sûr, j'ai pas le choix, là. C'est de la neige, c'est blanc, puis les ours sont blancs. Mais donc, j'ai vraiment essayé, dans certaines histoires, de changer l'heure de la journée, par exemple, ou d'avoir de la neige qui est plus fondue, puis voir un peu plus le sol. D'autres fois, on voit la mer sous la glace. Donc, j'essayais de faire que ce soit pas trop monotone, là, effectivement. Là, c'est ma première bande dessinée, donc j'ai peut-être pas réussi à 100% à faire ce que je voulais au niveau de la diversité, au niveau de la beauté des environnements. Mais c'était vraiment quand même quelque chose à laquelle je pensais, là. Comme par exemple, dans un gag, les enfants trouvent un phoque mort. Ben, je me suis dit, bon, OK, là, ça va être plus gris, ça va être plus triste, il va y avoir comme une semi-tempête de neige. Ou, tu sais, fait que j'essayais vraiment de faire que les couleurs aussi suivent le mood de l'histoire. Donc, j'essayais de le faire un peu comme, tu sais, au cinéma, il y a des équipes qui font des color key de tout un film, là. Donc, c'est des tout petits dessins, puis tu vois vraiment l'évolution des couleurs dans le film selon l'histoire. Donc, j'essaie de penser la bande dessinée comme ça, mes choses à moi comme ça. J'apprends aussi.
Oui, puis en fait, moi, j'imagine, c'est que selon les gags, dans le fond, comme tu dis, c'est que d'un côté, dans le fond, tu as l'ambiance de départ, dans le fond, qui va définir un peu la couleur, qui va définir où tu vas le placer. Puis j'imagine que l'essence aussi du gag, dans le fond, entre les gags très, très localisés, dans le fond, qui sont plus en mode famille ou qui n'impliquent pas des grands déplacements, par opposition, par exemple, aux séquences où là, il va chasser sur la banquise, bien là, tu as une opportunité aussi de la montrer, de nous amener dans des paysages où quand on commence à explorer, puis finalement, on tombe sur un camp de scientifiques, puis que là, subitement, on a des drones, on a des possibilités qui nous amènent aussi beaucoup plus haut. Donc, on joue aussi, on varie les perspectives et ça évite aussi toujours camper le gag dans le même degré d'environnement, dans le fond, donc des fois très limité, des fois beaucoup plus vaste.
Oui, je voulais pas que ça soit comme des strips là, dans les journaux, là, que tu sais, ça soit toujours dans le même angle. J'aime les bandes dessinées qui me font voyager, puis qu'on sent que le dessinateur est capable de nous montrer différents plans. Mais c'est plus difficile à faire, là, ça demande... ça m'a plus de dessin, tu sais. Bon, mon dessin, je dois t'avouer qu'il s'est amélioré quand même vraiment beaucoup là, à faire ces deux albums-là. Puis, mais j'étais très insécure. Donc, dans le fond, c'était le fun que ce soit juste la banquise pour un premier album, tu sais, parce que pour moi, c'était plus difficile de faire tous les environnements, trouver des points de vue intéressants. Mais moi, j'aimerais ça atteindre ce but-là, d'être capable de faire des scènes wow dans mes albums, là, tu sais, quelques-unes, mais de ne pas rester toujours dans le même point de vue. Puis,
Et en même temps, ça a l'effet aussi d'amener évidemment beaucoup d'attention vers tes personnages, vers tes animaux. Et là, si on parle de casting, mais il faut qu'ils soient aussi expressifs. Donc, des ours, ils sont expressifs. Des animaux aussi. Il y a un côté, évidemment, cartoon qui en ressort parce qu'on s'en va vers un dessin qui est humoristique, qui a une légèreté aussi à travers tout ça. Mais j'imagine qu'il fallait que tu les trouves, les faciès, les personnalités, puis que tous tes ours non plus ne soient pas identiques parce qu'ils ne réagissent pas de la même façon, parce qu'ils ne sont pas la même personne. À l'inverse, où tes phoques peut-être vont réagir un peu de la même façon parce qu'ils sont plus monolithiques, dans le fond, c'est les phoques versus tes ours qui sont plus définis.
Ouais. Ben, c'est ça, ça s'est fait tout au cours de l'album. Tu sais, je ne m'étais pas vraiment fait une bible là, avec des expressions au début, tout ça. Puis je dois te dire que je ne savais pas trop comment le dessiner, mon personnage, au début. Je veux dire, dans un angle, ça il était beau, mais pas nécessairement de côté. Ça a été un long apprentissage. Il a fallu que je m'habitue à le dessiner, que je trouve, bon, ben, c'est quoi les meilleurs points de vue, comment il sourit, comment il est fâché. Juste ses sourcils, j'avais choisi de faire des yeux qui ressortent un peu du crâne de l'ours. Puis là, genre, bon, comment je fais la colère, tu sais, ça paraît, tu sais, c'est vrai, mais c'était difficile pour moi, là, de, d'essayer de trouver la bonne façon de faire les yeux fâchés. Après ça, donc, mon personnage, je le vois, je regarde mon album, puis il est jamais pareil, là, mais j'apprends vraiment ce métier-là. Donc, je m'améliore, je le travaille. Mais puis aussi, je regrette un peu, j'ai pas assez exagéré la différence entre les deux ours adultes. J'aurais dû faire. Ils ont la même hauteur, ils ont la même shape. J'ai juste mis des vêtements sur Oncle Bob. Je me suis dit, ah, j'aurais donc dû essayer de peut-être de le faire plus pâteau, plus courteau. J'aurais peut-être dû essayer de les faire différents. Tu sais, il y a des choses que je n'ai pas poussées assez loin. Puis tu sais, je suis consciente, là, tu sais, bon, il est trop tard pour changer ça, mais bon, encore là, le métier rentre, là.
Oui, puis en fait, puis je fais la parenthèse pour dire aussi que tu mentionnes en fait des éléments qui, fait, dans le fond, en termes d'autocritique, ça reste nécessaire évidemment de revenir, de retourner, puis de dire bon, OK, ça, la prochaine fois, je vais faire
Exact.
comme ça, comme ça, comme ça, mais dans l'absolu, ça marche. La BD telle qu'elle est fonctionne, fait sourire, les personnages sont dynamiques et le reste. Donc, il y a quand même une étape qui a été accomplie. Puis, je
Ouais.
veux pas donner l'impression aux gens qui nous écoutent que, hey, on est dans l'autocritique. Non, non, ça
Ah non,
fonctionne quand
ben
même, là.
j'ai un peu cette tendance-là là, à être très dure envers moi-même là, puis mais je suis vraiment contente là, tu sais, c'est vraiment. Je suis contente, je l'ai fait. Elle est belle, elle est drôle. Moi, je me fais rire en le faisant. Puis, t'sais, y aura toujours place à l'amélioration, de toute façon, là.
Puis là, on a deux tomes. Dans le fond, il y a un premier, donc, que je disais, comme je disais, qui est déjà disponible. Il y a le deuxième qui s'en vient, j'imagine, en cours d'année prochaine, en novembre,
En
donc en
novembre.
cours d'automne. Et ensuite, est-ce que, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent aussi vers, est-ce qu'on a déjà des troisièmes
On a quatre albums.
de prévus?
Ouais, quatre albums. Donc, je travaille présentement sur le troisième, à la scénarisation du troisième. Et puis, j'ai le quatrième en tête, là, la finale aussi assez bien dessinée, là. C'est sûr, moi, je pourrais en faire beaucoup plus, là. C'est pas les problèmes environnementaux qui manquent, puis c'est pas les écosystèmes à exploiter, les animaux à montrer qui manquent, là. Mais on va commencer par quatre, là, pour boucler cette histoire-là. Donc, ça s'en vient. On a la moitié de fait.
Oui, effectivement. Alors, on va te rattraper avec cette moitié-là en novembre. Donc, déjà, donc, Paul Polaire, un coup de chaleur qui est disponible et le reste, ben, au fil de l'automne et des
Ouais.
années à venir. Caroline Soucy, merci beaucoup.
Hey, merci à toi.
Et j'en profite pour rappeler que l'album, il est disponible chez Glénat. Toujours dans le cadre de La vie en BD, on va maintenant vers une bande dessinée jeunesse qui est arrivée sur les étaux des libraires il y a quelques semaines de ça déjà, au fil d'un automne bien chargé d'ailleurs en bande dessinée ici au Québec. Alors la bande dessinée s'appelle Marco Bleu, c'est un scénario de Larry Tremblay, c'est du dessin de Julien Castagnier. C'est disponible du côté des éditions de La Bagnole et pour nous en parler, ben, on est en compagnie du dessinateur Julien Castagnier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est en fait, évidemment, on a, je pense, déjà vu peut-être passer votre nom côté illustration, tout particulièrement. Si je ne me trompe pas, Marco Bleu, c'est votre première forêt vers justement la sphère de la bande dessinée.
Oui, alors en fait, en tant que bande dessinée que j'ai réalisée entièrement, en effet, donc c'est 72 pages de bande dessinée jeunesse, mais c'est sûr que j'avais une pratique de la bande dessinée bien avant ça, au fil des années. Par exemple, j'avais travaillé il y a une bonne dizaine d'années avec Thomas Cadenne sur la série Les Autres gens, qui avait été une longue fresque bande dessinée qui se déclinait en plus de 10 tomes, je crois. Et puis j'étais intervenu sur quelques épisodes, pardon. Mais c'est sûr que là, travailler sur une bande dessinée en entier, du début à la fin, il y avait quelque chose de vraiment nouveau. Je me suis aussi inspiré, bien sûr, de mon travail dans le fanzine, où j'avais déjà fait des bandes dessinées à travers les événements comme les 24 heures de la bande dessinée ou les 48 heures de la bande dessinée à Montréal. Et puis j'avais aussi éventuellement fait quelques petites bandes dessinées de quelques pages, de 1 à 2 pages, même jusqu'à 10 pages à travers d'ailleurs un projet que j'avais fait pour Nouveau Projet. C'était du BD reportage cette fois-ci.
Donc, un médium que tu avais touché à gauche, à droite,
Ouais,
et là,
c'est
on arrive
ça.
avec un album complet, 72 pages. Et
Ouais.
j'ai déjà jasé avec d'autres gens qui ont travaillé avec Larry Tremblay, je pense à Pierre Lecrenier sur Le Garçon Visage disparu et autres. Et souvent, ben, dans le fond, on part dans le fond d'une pièce de théâtre au départ. Donc, est-ce qu'il y a quand même un certain travail d'adaptation, de préparation, donc où on se retrouve pratiquement avec une dynamique de travail d'écriture ou de re-rédaction ou d'adaptation aussi en supplément du travail de dessin.
Oui, vraiment. Et puis, en plus, cet univers, il a vraiment pris sa genèse dans, je crois, un premier livre
Oui.
qui avait été une première
De
bande
Guillaume
dessinée
Perrault,
ou un roman graphique illustré par Guillaume Perrault. Donc toujours Larry Tremblay à l'écriture. Puis de cet ouvrage est née finalement la pièce de théâtre de Marco Bleu. Et de cette pièce de théâtre est née la bande dessinée Marco Bleu. Donc il y a comme un cheminement, mais l'univers est entier. Et puis évidemment, tous les artistes qui sont intervenus, autant Guillaume Perrault que l'équipe du Théâtre de l'Œil et moi-même, nous avons chacun, je pense, exploré avec notre personnalité, notre univers, le texte de Larry Tremblay. Ouais.
Oui, parce que la question, c'est toujours quand je vois ça, c'est à quel point justement on va aller voir, OK, qu'est-ce que Guillaume Perrault a fait, qu'est-ce que la gang du Théâtre de l'Œil ont fait pour
Oui.
s'imprégner un peu de leur couleur, ou est-ce qu'au contraire, on essaie vraiment de se concentrer vers le texte pour avoir sa couleur sans être teinté peut-être un peu ou orienté par les choix que les autres ont faits?
Tout à fait. Ben, je me suis vraiment forcé. J'avoue que c'était difficile, mais je me suis forcé à ne pas regarder ce qui avait été fait avant pour justement tenter d'avoir un regard neuf. Je me suis rattrapé depuis la sortie du livre où j'ai pris plaisir à plonger dans les univers qui avaient été créés. Et ça, c'est aussi très intéressant de voir que d'autres esprits se sont appropriés différemment et parfois de manière similaire un même texte.
Faisons au départ un peu, présentons Marco Bleu. Justement, c'est le récit, si je vais très succinctement, d'un grand frère qui a 7 ans, dont le quotidien est bousculé par l'arrivée d'une petite sœur et qui a beaucoup, beaucoup d'imagination. Et de cette prémisse-là, dans le fond, va s'en suivre un dialogue intérieur, pourrait-on dire, un peu, qui va l'amener à en quête un peu de la position qu'il devrait prendre, qui devrait être à l'intérieur de tout ça, au final.
Oui, c'est un cheminement personnel qui passe par le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de la réflexion. Puis c'est aussi dans un sens un acte philosophique de comment on peut vivre autrement, parce qu'il fait des rencontres justement un peu farfelues qui lui permettent de voir les choses qui lui paraissent acquises d'un autre œil. Par exemple, il va sur une planète où les semaines durent que seulement 2 jours, le samedi et le dimanche. Et dans laquelle l'anniversaire se trouve tous les samedis. Donc, il a son anniversaire tous les 2 jours, la personne qu'il rencontre, le fameux Marco Bleu. Donc, ça permet aux enfants par rapport à quelque chose qu'ils pensent acquis, comme les journées de la semaine, du lundi au dimanche, tout d'un coup, voir ça un peu chamboulé. On peut imaginer finalement une semaine qui dure 2 jours. Et puis, ça permet après d'être les bases d'une réflexion, de penser l'altérité, de penser les autres façons de vivre qui peuvent être qui peut augmenter pardon la tolérance.
Oui, puis en fait de susciter des réflexions au bout du compte chez ces jeunes-là, ou de donner des outils à leurs parents
Oui.
pour susciter ces réflexions-là aussi, pour dire ben ça pourrait être différent, puis de peut-être réaliser que ce qu'on a est pas si mal au final, parce que c'est un peu aussi au bout du compte l'acceptation de faire le maximum de ce qu'on a, d'en tirer le maximum, ou de prendre conscience de ce qu'on perd si on a autre chose aussi.
Oui, tout à fait. Puis c'est un dialogue intérieur. Et puis je pense que le mot dialogue est bien trouvé puisque ça c'est une œuvre qui est tirée du théâtre. Et puis Larry Tremblay est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup les dialogues. Puis ça a été un des défis d'ailleurs de la réalisation de la bande dessinée, c'était comment on pouvait montrer en image finalement, parce que dans la grande majeure partie du livre, ce sont un dialogue avec une personne quasiment, même si finalement il y a plusieurs autres protagonistes. Mais j'avais un défi aussi personnel à essayer de mettre en scène finalement ces dialogues-là. Puis ça a été assez plaisant de faire.
Oui, assez. En fait, puis Au-delà même, en fait, on est dans un dialogue intérieur, mais même si on résume le plus succinctement à la notion de dialogue comme tel, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que c'est probablement des éléments les plus difficiles à mettre en scène en bande dessinée, parce qu'on peut pas se contenter d'avoir deux personnages qui parlent, qui se
Tout à
déplacent.
fait,
Il faut
ouais.
varier les plans, il faut varier la manière de présenter, il faut varier la manière de camper le dialogue. Et j'ai l'impression, en regardant la BD, qu'on a été vraiment avec un éventail extrêmement large, OK, de comment on peut les mettre en action, comment on peut les mettre en scène pour avoir de la variété, puis que ce ne soit pas lourd et redondant, dans le fond, pour le
Ouais.
lecteur, la lectrice.
Ah, moi, je me suis fait plaisir, c'est sûr. Puis la force de la bande dessinée, au-delà du fait que c'est un médium qui est très accessible, finalement, où on peut créer tous les décors qu'on veut, et puis on peut créer à la fois les choses du monde réel, mais aussi les choses du monde imaginaire. Donc, on est vraiment. J'ai pu m'amuser à utiliser les métaphores, j'ai pu m'amuser à changer les plans, à varier le rythme. Puis finalement, faire une bande dessinée, c'est résoudre des problèmes de narration et résoudre des problèmes de lisibilité. Donc, c'est comme un immense casse-tête petit à petit, on essaye de résoudre une pièce à la fois. Et puis, j'ai vraiment aimé cette expérience-là.
Et en termes de pièces, justement, ce que je pense que la première chose qui va frapper pour quiconque, dans le fond, parcourt le livre rapidement, c'est vraiment l'addition progressive des couleurs. Dans le fond, on commence avec le noir, les teintes de gris, donc ce qui nous ancre un peu dans la réalité. Et là, tranquillement, on ajoute du bleu, et là, tranquillement, on ajoute du rouge, et là, tranquillement, on ajoute du jaune. Donc, il y a une progression au fur et à mesure que la réflexion, j'imagine, évolue, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux personnages, des nouveaux éléments qui arrivent. Donc, ça devient un premier outil déjà pour apporter une variété, pour apporter une progression aussi.
Oui, tout à fait. Je pense que ça a été le déclic dans la création de cette bande dessinée ou dans la. Ça a été vraiment. En fait, au départ, c'est étonnant. Je pensais que on m'a proposé cette bande dessinée de la faire en bichromie, c'est-à-dire donc des niveaux de gris et une deuxième couleur qui aurait été le bleu puisque le titre est Marco Bleu. Et puis en fait, il y a eu comme un quiproquo parce que l'auteur, lui, pensait qu'on allait le faire en quadrichromie, donc en quatre couleurs, ou en tout cas une multitude de couleurs. Puis lors de la première rencontre, on s'est aperçu de ce décalage de notre compréhension du projet. Puis on ne s'est pas laissé abattre, on a essayé de trouver une solution, on a essayé de trouver un compromis qui faisait que la couleur n'allait pas être un élément ajouté gratuitement, mais j'ai réfléchi à un système pour que la couleur vienne progressivement apporter quelque chose au récit et être un outil narratif comme un autre. Donc, en effet, on part du bleu, enfin du noir et blanc. Le bleu s'y ajoute avec la rencontre du personnage Marco Bleu. Ensuite vient le rouge avec un second personnage aussi qui va être Lily Rouge. Et puis le jaune arrive pour d'autres éléments narratifs. Pour à la fin, toutes ces couleurs viennent compléter en fait toutes les émotions que peut vivre Marco Bleu. Donc, ça a été ça un déclic en fait dans ma résolution narrative. C'est d'utiliser vraiment la couleur comme un outil narratif.
Oui, parfait. Puis de nous faire comprendre, parce que dans le fond, ce que Marco Bleu vit, ce que Marco tout court, en fait, vit là-dedans, c'est un parcours évidemment transformateur. Et donc, avec l'addition, au début, il est d'une certaine façon, à la fin, comme il est la somme de toutes ces couleurs-là, ben, on comprend visuellement, dans le fond, l'impact transformateur de cette expérience-là. Puis on peut comprendre que ses amis qui, eux, sont peut-être aussi dans une monochromie ou dans une bichromie, ben, vont peut-être éventuellement aussi, dans leur parcours, aller chercher ces couleurs-là. Donc, ça vous donne un outil supplémentaire, dans le fond, pour bien faire comprendre ça, que ça soit clair pour le jeune lecteur, parce que c'est votre clientèle première aussi pour ça.
Tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose aussi d'assez ludique avec ce jeu de couleurs qui s'additionne pour montrer la complexité des choses aussi parfois, la complexité des sentiments, la complexité des émotions. Je pense que justement, on n'est pas figé dans quelque chose, même en étant enfant, justement, on ressent beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitation parfois, et puis tout d'un coup de s'apercevoir qu'on est multiple, qu'on est plusieurs choses à la fois, je pense que ça peut être quelque chose qui peut apaiser aussi.
Et puis en même temps, au niveau du dessin, bien évidemment, encore là, on en revient à cette variété-là. Mais en même temps, j'imagine que, par exemple, quand on tombe dans les pages de bleu, ben reste que le noir, blanc, gris offre beaucoup de variété pour mettre en relief, dans le fond, pour créer de la profondeur. Et en même temps, ça fait une opposition intéressante parce que le bleu, il est uniforme. Il n'y a pas de profondeur dans le bleu que vous offrez comparativement au noir et blanc. Donc, déjà, on sent qu'on est dans une autre dimension, dans un autre cadre,
Dans
avec
un monde
ces
imaginaire.
personnages-là, dans le fond,
Oui, tout
exact.
à fait. Oui, exactement. C'était vraiment l'intention.
Et ensuite, ben, dans le fond, j'imagine qu'une fois qu'on a trouvé le procédé, c'est de voir comment l'utiliser, parce qu'il y a des séquences, si je pense par exemple à la séquence de voyage où on passe justement de la planète de la chambre, dans le fond, de Marco, qu'on ouvre un peu vers l'espace noir qui devient bleu. Il y a des doubles pages ou des suites de séquences comme ça où ce métissage de deux méthodes réussit, vous met sur la voie d'illustrations quand même qui sont très poétiques aussi. Donc, c'est ce que c'est un peu d'essai-erreur pour en arriver un peu à ce métissage de texture visuelle-là, ou est-ce que justement c'est venu un peu de facto parce que ben, c'est les outils que vous aviez, puis naturellement, c'est un procédé qui s'est imposé?
Oui, je pense que ça a été assez naturel finalement. Une fois que j'avais défini le principe, les choses se sont posées tout naturellement. Puis c'était juste finalement dans ma palette d'options quelque chose qui venait se rajouter. Donc c'était des outils supplémentaires pour pouvoir présenter le déroulement de l'histoire. Donc ça c'est une fois que j'avais défini cette partie-là, tout s'est vraiment résolu en fait et tout s'est agencé. De manière très fluide, et ça, c'était vraiment plaisant.
Oui, effectivement, en fait, du moment où on réussit à trouver la voie après ça, on dirait que c'est une exploration peut-être un peu plus libre, où on se sent un peu plus léger parce que on sait que ça va marcher au final, puis qu'on a juste à expérimenter dans une ligne qui est relativement claire, puis voir un peu qu'est-ce que ça va nous amener.
Oui, puis moi, j'ai un passé où j'ai étudié le design graphique, donc j'avais quand même un souci, souvent dans mes images, se retrouve un souci d'efficacité, de lisibilité. Donc, de jouer avec les couleurs, ça me permettait de garder des images qui étaient très impactantes, mais tout en amenant une partie un petit peu plus poétique. Et je pense que les métaphores visuelles que j'utilise avec parcimonie, ça aide justement au récit et à faire ce lien entre le monde réel et le monde de l'imagination.
Et j'ai l'impression que c'est appuyé puis que c'est servi par le fait que le visuel lui-même, vous avez choisi de le garder simple aussi. Dans le fond, peut-être en raison aussi du fait
Tout à
qu'avec, par
fait.
exemple, le bleu, ben, on est plus limité dans ce qu'on peut montrer. Donc, fallait pas aller avec un trait qui était trop complexe non plus. Puis en même temps, pour maximiser, j'imagine, tous ces impacts-là.
Tout à fait. Puis avec la bande dessinée aussi, c'est quelque chose qui est très long à produire, à réaliser. Donc, puis c'est quelque chose qui se lit très vite aussi. Donc j'avais quand même à la fois un souci d'efficacité dans la création des images, mais je voulais aussi garder le plaisir du dessin et le plaisir de l'image qui, avec la couleur, peut devenir aussi complexe.
Oui, puis j'ai l'impression même pour vous, parce que encore là, je reviens un peu à la notion de variété, mais il y a pratiquement quatre styles de Julien Castagné à l'intérieur de ça. Donc, il y a le style noir et blanc qui est peut-être un peu plus abouti, un peu plus complet, texturé. Il y a la monochromie, dans le fond, le bleu, on a parlé, il y a le rouge aussi qui apparaît éventuellement, qui se met en dialogue également. Ensuite, ben, on a mentionné le jaune qui nous amène, en fait, puis je veux pas trop en dévoiler non plus, parce que je veux quand même que les gens la voient et découvrent des choses aussi dans la
Bien
BD,
sûr.
même s'ils nous ont écoutés. Mais on arrive dans un autre univers, disons-le comme ça, dans lequel vous avez développé un autre style de dessin en noir et blanc pour qu'on sente qu'on est clairement ailleurs. Et à un moment donné, on revient aussi vers une interprétation du personnage, en fond, des éléments que vous avez créés pour nous ramener justement au fait qu'au bout de compte, c'est lui qui les a inventés, donc que c'était d'abord dans son style. Ça va être assez plaisant, assez stimulant justement de pouvoir passer comme ça d'un style à l'autre, puis de pas s'ancrer non plus dans une, entre guillemets, routine de dessin ou routine visuelle en termes d'approche, mais vraiment plus de chercher à varier pour camper, dans le fond, différentes perceptions, si on peut dire, du visuel.
Oui, c'est sûr. Et puis, je pense que justement, dans la dernière partie où l'ensemble des couleurs finalement se retrouvent, je trouve que ça raconte aussi le fait que souvent on oppose le monde réel et le monde imaginaire comme deux mondes distincts où il n'y a aucune porosité. Mais en réalité, les choses sont bien plus fluides que ça. Et en fait, quand on raconte une histoire, on mixe en fait. On est dans le réel et pourtant on parle d'imaginaire et pourtant cet imaginaire entre dans le réel pour passer quelque chose. Donc c'est aussi un livre sur le pouvoir de l'imagination et le pouvoir du récit. Et c'est en ça, je trouve que j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à essayer de retranscrire ça.
Oui, puis vous l'aviez bien campé même au départ, parce que si c'est clair à la fin, c'est que c'est clair aussi à un moment donné quand on met cet élément-là. Il y a toute une séquence où justement le Marco réel joue dans la tête du Marco bleu pour lui donner ses souvenirs, pour orienter le dialogue. Et on comprend très bien à ce moment-là, puis je pense que pour tout public, ça va être très clair qu'on est dans le fond dans l'imaginaire, dans la perception, dans l'auto-questionnement au bout du compte et dans l'imagination. Et ensuite, ben, qu'on voyage avec tout ça.
Oui, vraiment.
Donc, encore là, c'est trouver le bon outil, trouver la bonne manière de le présenter, parce qu'à quel point, dans le fond, dans le texte, avec les didascalies et le reste, c'était clair que c'était comme ça que le jeu de boîte, exemple, se faisait. Donc, il ouvre la tête, qui met le truc, ou à quel point c'est Julien Castagnier qui a pris un peu le concept et qui dit, OK, comment je peux le montrer pour que ça soit clair, limpide, avec les outils que je me suis donné?
C'est une bonne question. j'imagine que tout est un peu mélangé aussi au bout d'un moment, puisque finalement, le dessin de Marco, quelque part, c'est moi qui suis en train de le dessiner. Donc, il y a une sorte de mise en abîme qui est le... peut-être qu'il y a le Julien Bleu, en plus du Marco Bleu, qui a un rôle, qui a joué un rôle aussi dans la création de cette bande dessinée. Je pense que ça a été un exercice... dans lequel j'ai réussi à me projeter dans un univers tout en essayant d'amener mon propre univers. Donc, il y a un mélange aussi des styles, ouais, en effet.
Oui, en fait, on se donne le droit à interpréter, on se donne le droit à extrapoler, on se donne le droit à dire, ben, OK, c'est ce qui est proposé maintenant dans le texte, OK, on l'adapte, toujours en s'assurant, dans le fond, de la lisibilité de la chose, parce qu'au bout du compte, ça reste l'essence pour que le récit marche, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit lisible.
Oui, mon souci premier, en effet.
Et si on met en à côté, parce que dans le fond, vous avez parlé en début d'entretien, dans le fond, d'une variété d'expériences avec la bande dessinée, nonobstant les albums longue forme, du travail d'illustration aussi. Donc, quand on en arrive maintenant avec ces outils-là vers un album destiné au public jeunesse, j'imagine que la méthode, l'approche de travail n'est pas nécessairement la même non plus. Donc, à la fois d'un côté pour le public, un peu comme dans certains types d'illustrations, à la fois avec les outils de la BD, mais... En même temps, il y a d'autres impératifs parfois qui amènent ou au contraire, c'est un peu simplement un a priori à mettre puis on se lance un peu avec ça.
Mais je pense que moi, je fais confiance à l'intelligence des jeunes et l'intelligence des enfants sur leur capacité à se projeter dans un récit, à leur capacité à comprendre le récit. Mais c'est aussi mon travail de rendre le récit lisible. Après, c'est sûr que moi, dans mon expérience d'artiste, de créateur, j'ai aussi une pratique d'atelier pour enfants dans les écoles. Donc, je passe quand même pas mal de temps dans les classes pour parler avec les jeunes, pour essayer de comprendre quelle est leur réalité en 2022, qu'est-ce que c'est d'être un jeune, parce que moi, je suis plus à l'école, donc ça fait du bien de rester connecté aussi avec leur réalité, leurs questionnements, qui sont pour certains similaires aux miens à leur âge, mais pour certains très différents. Donc ça, j'essaie que ça me nourrisse pour ensuite, quand je suis dans la position de créer un livre qui est à destination de cette tranche d'âge, d'essayer d'être à leur niveau, de parler à leur intelligence.
Oui, puis j'imagine que ça doit conforter aussi quand on attaque sur un livre avec porteur de questionnements, porteur d'éléments de réponse, d'une certaine façon aussi, mais de savoir qu'on répond à des vraies interrogations, à des vraies préoccupations aussi, que c'est pas... C'est très... Il y a une base concrète, si on peut dire, à tout seul.
Oui, et puis c'est un livre qui pose des questions. Moi, c'est les livres qui me plaisent le plus parce que les livres qui donnent des réponses, souvent, soit ils passent pas beaucoup de temps, soit... Je ne sais pas, mais en tout cas, poser des questions, je trouve que c'est la chose la plus belle au monde, puisque en fait, on donne un peu une part à la personne qui va lire le livre, une part d'action, en fait, finalement, sur le récit, hein, parce que la personne doit compléter, en fait, finalement, l'œuvre artistique en répondant à ses questions à sa manière, accompagnée par le point de vue des auteurs, mais en tout cas, à sa manière, quoi. Donc, c'est ça que j'aime aussi dans ce livre-là.
Oui, j'imagine, en fait, c'est des éléments comme ça qui vous avaient attiré vers ce projet-là au départ.
Définitivement.
Que j'avais envie d'apprendre.
Oui, mais c'est d'ailleurs quand on reçoit un texte, assez rapidement, on sent si on a des accointances avec le texte, la manière d'amener les idées. Puis on voit aussi un peu les défis qu'il va y avoir. Là, il y avait beaucoup de dialogues, donc je me suis posé assez rapidement la question de comment j'allais résoudre ça, mais ça fait partie du processus créatif de résoudre justement des enjeux narratifs. Et puis, c'est la chose sur laquelle j'ai eu le plus de plaisir, quoi, vraiment.
Oui, puis après ça, d'établir, en fait, à travers ce dialogue-là, on peut établir des postures qui vont être récupérées par après. Tu sais, comme exemple, je pense Marco Bleu dans sa chambre, il n'y a pas d'échelle alternative de la chambre à la planète. C'est de un à l'autre, puis il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, subitement, ça vous permet aussi, par exemple, en termes de montage, de passer rapidement d'une échelle très, très proche à une échelle planétaire parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Donc, on sent qu'on est clairement ailleurs quand on est capable d'exploiter ce type de perception-là aussi. Donc, ça doit être stimulant à réfléchir à ce type de progression-là qui est hors norme au bout du compte.
Ouais, puis moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez cérébral, donc j'aime ça, résoudre des problèmes. C'est sûrement lié aussi à ma formation. J'ai étudié en didactique visuelle, donc c'est la transmission de savoir par l'image. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me challenge, et j'apprends beaucoup en faisant des projets comme ça, c'est sûr.
C'est intéressant. C'est dans le fond, la didactique visuelle, au bout du compte, c'est de voir quels sont les meilleurs outils, les meilleures manières de mettre de l'avant, dans le fond, certaines réflexions, certains propos ou de.
Ouais, des propos, des réflexions, de l'information, ça peut être, ouais, c'est un grand, grand domaine, mais qui a plusieurs outils justement pour pouvoir communiquer.
Et j'imagine qu'à un moment donné, il y a aussi le défi alternatif où on se retrouve avec beaucoup d'informations, beaucoup de réflexions, on a pensé à notre affaire, mais qu'il faut que le côté plus spontané prenne le relais, si on peut dire, pour mettre fin au questionnement puis juste
Ouais.
se lancer.
Oui, c'est le danger d'être trop cérébral, c'est de se paralyser soi-même. Mais le dessin permet, en tout cas, mon approche du dessin me permet aussi de simplifier les choses et d'aller à l'essentiel.
Évidemment, on peut découvrir tout ça, découvrir le rendu. Je pense qu'on a évoqué, on a donné des indices au fil de la discussion. Évidemment, ben, le résultat, il est dans le livre. Je le rappelle, ça s'appelle Marco Bleu. Donc, c'est d'après l'œuvre théâtrale et le livre jeunesse de Larry Tremblay. Donc, c'est dessiné et mis en scène par Julien Castagnier. C'est du côté des éditions de La Bagnole. Julien Castagnier, merci beaucoup.
Un grand merci.
Toujours dans le cadre de la vie en BD, on a quelques instants pour quelques commentaires BD. Et ben, entre autres, on commence avec un ouvrage que j'attendais, je dois avouer, en fait, je ne les vois pas nécessairement venir, mais je les attends toujours un peu. C'est les nouveaux albums de Tom Gold. Pour ceux et celles qui suivent l'émission depuis moult, moult années, en fait, je pense depuis Goliath, que j'apprécie beaucoup cet auteur britannique. Et évidemment, en fait, il y a un peu deux types d'albums qu'il nous offre, en fait, entre Goliath ou encore Police Lunaire, qui sont vraiment plus des récits longue forme, eh bien, il y a aussi plusieurs publications qui sont effectuées dans différents journaux. Je pense entre autres au journal The Guardian. Donc, où il offre des courts strips, des planches, des récits à caractère humoristique chaque dimanche. Et évidemment, ben, il y a adaptation qui est faite par la suite. Ça a donné « Vous êtes tous jaloux de mon jetpack ». Je pense que c'est en 2014-2015. Ça avait donné un peu plus tard, donc En cuisine avec Kafka. Et maintenant, donc ça nous donne la revanche des bibliothécaires. Pour ceux qui nous écoutent de France, c'est chez 2024. Pour ceux qui nous écoutent du Québec, c'est publié aux éditions Alto. Et ben vraiment, un peu dans la suite de ces autres strips, donc on a des gags, des éléments humoristiques qui s'intéressent à différents pans de milieux culturels, de milieux académiques, et ben, le titre le donne un peu en mille. Donc, avec la revanche des bibliothécaires, on est clairement dans la sphère, dans l'univers de la littérature. Donc, les éditeurs, les auteurs, les bibliothécaires, les libraires. Donc, on s'amuse un peu dans ce monde où, évidemment, les mots, les lettres, la littérature occupent une place centrale. Et ben, évidemment, vu la période d'intérêt de cet ouvrage-là, eh ben, il y a aussi, évidemment, des petits clins d'œil de pandémie de COVID. Donc, elle est passée à travers tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil, de références. Bref, c'est extrêmement riche et sincèrement, un peu à l'image des autres que j'ai eu le plaisir de lire, eh bien, c'est des ouvrages qu'on lit avec le sourire aux lèvres, donc de strip en strip, de gag en gag. Ça fonctionne toujours avec un dessin qui est très, très simple, avec une narration qui est fort adéquate également. Donc, bref, si vous aviez aimé ces précédents, ben, c'est clair que vous allez apprécier la revanche des bibliothécaires. Si vous n'avez pas encore découvert Tom Gold, faites-vous plaisir et allez jeter un petit coup d'œil, que ce soit Département des théories fumeuses, que ce soit En cuisine avec Kafka, que ce soit Vous êtes tous jaloux de mon jetpack, que ce soit Goliath, Police lunaire ou autre. Ben, jetez un coup d'œil, vraiment un auteur britannique qui personnellement m'a séduit et qu'on avait eu le plaisir d'ailleurs de recevoir à l'émission dans le passé. Mais bref, donc la revanche des bibliothécaires chez Alto, forte recommandation de mon côté pour les amateurs du genre. Si on change de répertoire, les trois prochains titres, on va aller vers la littérature à caractère un peu jeunesse, mais Sincèrement, je les apprécie aussi. Donc, c'est jeunesse au sens large. Premier, en fait, l'écart de ferraille. Donc, le premier tome qui est arrivé sur ma table de chevet, ça s'intitule « Debris, Cyrano et moi ». C'est de José Luis Munera et Becca du côté du dessin et Senas à la couleur. C'est aux éditions, si je ne me trompe, aux éditions Dupuis. Et on nous amène, donc c'est vraiment... une série d'histoires, dans le fond, jeunesse qu'on nous annonce, là, des contes, au bout du compte, du moins, c'est ce qui est indiqué là, sur la couverture. Et donc ici, le trio de scénaristes, donc Munera et Becca, Becca qui est un duo en fait, Bertrand Escatch puis Caroline Rock, propose un mélange qui est extrêmement intéressant. D'un point de vue esthétique, en fait, d'entrée de jeu, donc on est dans un monde qui a l'air un peu d'un monde passé, dans le fond du monde, peut-être des années 30, des années 20, un monde où bon, on est dans le sud des États-Unis, il y a la notion de culture du coton, donc il y a la notion des technologies qui ne sont pas nécessairement aussi omniprésentes, du moins à première vue, qu'on pourrait y penser. Mais dans un monde où justement les technologies sont beaucoup plus omniprésentes, puisqu'il y a des robots, puisqu'il y a Internet. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve dans une histoire, dans une période historique non technologique, et dans laquelle on a intégré justement des éléments de technologie qui donnent accès à de la littérature, qui donnent accès à du cinéma, qui donnent accès à des outils de télécommunication. Et des robots qui, d'un côté, vont être là pour accomplir, dans le fond, différentes tâches, différentes fonctions, et qui, de l'autre, vont être également là pour soutenir l'humain dans d'autres actions. Donc, autant ils vont ramasser du coton, autant il va y avoir des robots nounous, autant il va y avoir des robots limiers, policiers, autres. Donc, on joue un peu avec ce métissage-là. Et évidemment, ben il y a toute la notion d'esclavage aussi qui se retrouve là-dessus, dans la mesure où le robot ben se fait imposer des tâches. Donc, parfois, il va choisir de quitter cette tâche-là. Parfois, il va être retiré d'une tâche et devra donc aller se faire recycler, donc se faire effacer la mémoire et recommencer à neuf ailleurs. Mais il n'a pas nécessairement désir, dans le fond, de lui perdre cette mémoire, de lui perdre cette expérience-là, et donc va choisir de se sauver, d'aller vers une ville de robots, dans le fond, une ville, un havre pour justement ces robots-là. Et c'est un peu donc au cœur de ce premier tome-là, eh bien, on retrouve donc une petite fille, Isaé, qui est élevée par un robot, par une nounou. Sa mère est extrêmement distante, ne l'encourage pas à avoir des amis, ne l'encourage pas à avoir d'autres relations que sa nounou. Évidemment, il y a une raison à ça qu'on découvrira aussi en cours de récit. Elle va quand même se lier d'amitié avec quelqu'un et un beau jour, ben, dans le fond, sa mère va dire, ben, regarde, ta relation avec la nounou, elle est trop riche, trop chargée d'amour. Bref, ça marche pas. Alors, moi, je te l'enlève. Désormais, tu es assez grande pour être seule dans la maison. Et la jeune fille va choisir d'aller en quête, d'aller essayer de retrouver justement cette nounou-là, ne serait-ce que pour lui dire adieu. J'en dis pas plus sur le récit. Ça avance de très, très belle façon. Mais j'aime beaucoup, dans le fond, l'univers dans lequel les auteurs-autrices ont choisi de nous placer. J'aime le trait, j'aime la manière dont tout ça est mis en scène. J'aime les choix de design qui ont été faits aussi des robots. Il y a une simplicité, si on peut dire. En fait, c'est essentiellement un œil, un immense corps, mais il y a une expressivité qui ont réussi à en faire ressortir. Bref, sincèrement, c'est une série qui, pour moi, a fait mouche. Une très, très chouette lecture. Et ben, si vous la croisez en librairie, là, jetez un coup d'œil aussi. Là, je pense qu'elle devrait de toute façon vous popper dans l'œil, comme on dit. Alors, ça s'appelle « Les cœurs de ferraille ». Donc, le premier tome, je rappelle le titre, donc « Débris, Cyrano et moi ». C'est de José Luis Munera et Becca, et c'est chez Dupuis. Autre petit clin d'œil, si on reste dans le jeunesse élargie. En fait, j'avais parlé, je pense, ça fait déjà plusieurs années, en fait, du premier tome de Bergère-Guerrière, où je vous avais dit, regardez, c'est vraiment une chouette série jeunesse qui commence avec un beau dessin. Ça fonctionne bien. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu deux moments charnières dans la vie d'une série. Il y a comment ça commence, comment on va réussir à bien placer l'univers, comment on va réussir à bien placer les choses. Et en parallèle, il y a comment ça se termine aussi. Donc, est-ce qu'on réussit à vraiment boucler la boucle? Est-ce qu'on réussit à bien conclure cet univers-là? Et force est d'admettre qu'avec le quatrième tome, donc, de Bergère, Guerrière, L'Abîme, eh bien, on réussit justement à bien fermer cette boucle-là. Donc, c'est de Jonathan Garnier et d'Amélie Fléchet. Amélie Fléchet avec un très, très, très beau trait d'ailleurs, des personnages qui sont d'une certaine approche avec des fonds un peu plus texturés. Ça fait une belle dichotomie, là, ça fonctionne très bien. Dernier volet de cette série-là, et c'est un peu le moment où on fait toujours la parenthèse, ben, regardez si vous hésitiez à vous lancer dans Bergère, Guerrière, mais qu'au premier tome, ça vous avait intrigué, ben, sachez que la série fonctionne, que la fin fonctionne, que ça marche. Pour rappeler un peu les thèmes, on est dans l'idée de la cohabitation entre les hommes et la nature. On se retrouve dans un monde où il y a des forces ancestrales, à défaut d'un meilleur terme, qui sont mis en œuvre. Il y a une jeune fille qui a tentant de sauver le monde, qui en est venue un peu à le détruire parce que les forces du chaos ont pris le contrôle d'elle, parce qu'elle n'a pas pu accomplir sa mission. Et la série elle-même, elle suit un peu ces événements-là aussi pour essayer de sauver la donne d'une certaine façon et de revenir, de réparer ce qui a été brisé. Et à travers ça, ben, on aborde évidemment l'amitié, à travers ça, on aborde évidemment l'importance de la famille. Il y a le deuil aussi qui intervient là-dedans. Bref, il y a quand même une richesse et une galerie de personnages qui, visiblement, vivent chacun leur histoire, vivent chacun leurs défis, vivent chacun leur réaction, leur dynamique face à l'adversité. Et encore là, ça fonctionne très bien. Ben vraiment, en fait, on a vraiment une série qui est tout en un dernier tome, en fait, qui est tout en étape où on traverse différents univers en route vers la source de tout ça, dans le fond, l'origine, peut-être positive comme négative, et de voir ben, comment justement, avec le poids des choix qui ont déjà été faits dans le passé, eh bien, on réussira à les transcender et à faire d'autres choix au bout du compte, donc à apprendre de l'histoire. Chose qui peut paraître relativement évidente, mais qui, de toute évidence, ne l'est pas vraiment. Alors, donc, comment on va réussir un peu à surmonter tout ça pour, donc, résoudre le drame de cet univers-là, le drame de ce monde-là? On est dans une pagination peut-être un peu plus intense que les précédents tomes parce que, ben, on vous laisse donner de la place pour dire ce qu'on a à dire sans créer un récit qui allait trop vite. Donc, là, on donne aux personnages le temps de vivre ce qu'ils ont à vivre. On donne au dessin le temps de placer cet univers-là, de placer ces nouveaux lieux qu'on découvre au fil de ce récit-là. Ça reste quand même important aussi. Et tout ça, des fois, dans un dessin qui reste très, très doux, mais dans des propos qui parfois vont être un peu plus durs aussi. Donc, encore là, je parlais de dichotomie tantôt, mais ça fonctionne aussi là-dessus. Bref, c'est une série que j'ai beaucoup aimée et je le réitère, le quatrième tome fonctionne, vient bien car la série est une série ben, qui désormais est dans ma liste de séries jeunesse que je recommande joyeusement. Elle était déjà un peu, il faut dire. Mais donc, quatrième tome, Bergère, Guerrière, L'Abîme, chez Dupuis de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Et peut-être dernier clin d'œil, je vais aller rapidement, mais simplement pour vous rappeler l'existence de cette série-là, c'est Garé et Philippe Lemieux qui font l'histoire du cinéma en BD. Le tome 2 qui a été publié il y a quelques temps déjà, tome 1 que j'avais bien apprécié d'ailleurs, donc où essentiellement on nous raconte l'histoire du cinéma, et ben, rendu au deuxième tome, donc on est vraiment dans l'idée du mime, l'idée du cinéma burlesque qu'on nous explique avec quand même un beau détail. Et j'ai bien aimé, en fait, l'approche par laquelle on a choisi de le présenter. Enfin, il y a un peu trois éléments. Dans le premier tome, on est un peu dans l'aspect technique, technologique aussi. Donc, ça suit un peu vers le deuxième. Vers le deuxième, on introduit c'est quoi le mime, le fonctionnement. On nous donne des noms, des références. Donc, ce qui fait qu'après ça, ben comme parents, on peut prendre ça puis aller voir sur YouTube, aller voir sur le site des sites de cinéma et autres, ben, retrouver aussi certains métrages, certains films pour visionner ce qu'on a vu. On nous propose une séquence sur quelques planches d'un film muet, essentiellement, donc qu'on recrée, qu'on reproduit en case. Donc, j'ai trouvé ça intéressant aussi, donc avec l'approche esthétique qui s'ensuit. Et ça ouvre avec Chaplin jusqu'à la fin, dans le fond, du cinéma muet, le moment où, justement, le personnage de Charlot prend la parole avec les explications un peu autour de tout ça et l'ouverture, dans le fond, vers le cinéma parlé qui était déjà, qui a côtoyé, dans le fond, la fin du cinéma mimé aussi, dans le fond, pendant presque une décennie. Donc, on apprend des choses. Vous voyez, j'ai même placé une ou deux petites anecdotes que j'ai découvertes et j'ai lues dans le livre. Donc, ça se place bien aussi, même pour les plus vieux. Et encore là, ben, c'est comme le premier tome, je trouve une belle porte d'entrée sur le cinéma des débuts, sur une contextualisation de cet art-là, et en profitant justement de la capacité que la bande dessinée d'amener, de soutenir une belle vulgarisation autour de ces choses. Alors, une autre petite recommandation, un petit clin d'œil à cette série, là, si la thématique vous intéresse, si vous cherchez comment l'amener auprès de vos jeunes, 8-12 ans, là, l'histoire du cinéma en BD, le tome 2 qui reste sur la lancée du premier tome. Donc, si jamais la thématique vous intéresse, ça c'est de Gary et Philippe Lemieux et c'est chez Michel Quintin. Alors voilà pour nos quelques clins d'œil BD cette semaine. Eh bien, voilà ce qui met fin à cette édition de La Vie en BD. Alors, on se retrouve, comme à l'habitude, la semaine prochaine. On sera en mode club de lecture, d'ailleurs, la semaine prochaine. Alors, c'est un rendez-vous. Et d'ici là, c'était Raymond Poirier au micro et passez une excellente semaine.